Nicolas Chéron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stratégiste chez CMC Market. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. L'actualité de cette semaine, c'est bien entendu la réserve fédérale américaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut enfin avoir une certitude sur la hausse des taux aux États-Unis en décembre?
Disons que cette possibilité prend du galon. Nous avons vu les taux à 2 ans aux États-Unis inscrire des nouveaux plus hauts de 5 ans, ce qui montre bien qu'il y a une volonté là des marchés d'aller de l'avant vers ce changement de politique. On peut regarder aussi les Fed Funds qui sont passés de 68% à 72%. Donc certes, il y a une augmentation de la probabilité de cette hausse de taux, mais elle n'est pas beaucoup plus forte qu'elle ne l'était déjà. On a quand même l'impression que, en décembre, la Fed va se mouiller et va enfin monter les taux de 0,25 point de base.
La vraie question reste la même, c'est-à-dire finalement une petite hausse de taux qui va arriver, donc qui ne change pas fondamentalement on va dire, le panorama global.
C'est là où il y a eu un changement de rhétorique dans les minutes du FOMC d'hier, c'est qu'on nous parle d'une possible hausse de taux unique, seule. Donc en fait, ça pourrait être une hausse de taux accommodante, vous voyez le paradoxe. La Fed et Janet Yellen s'est mouillée au début de l'année 2015 et elle nous a dit, l'économie américaine est en train de se reprendre, on est là dans un cycle de croissance, nous devons donc monter les taux. Je le ferai en 2015. Donc, en décembre, plus qu'un changement de politique monétaire, c'est la parole de Janet Yellen qui importe. Et je pense que les États-Unis feront tout pour que la directrice de la réserve fédérale américaine garde la tête sur les épaules. Et donc, il y a de très grandes chances qu'on ait une hausse de taux de principe.
Aujourd'hui, on a l'impression côté effectivement investisseur que ça a été désormais c'est acté et il n'y a plus là peut-être les paniques qu'on a pu voir à certaines occasions quand on évoquait ce même sujet.
Oui, il y a 6-8 mois, une hausse de taux faisait peur aux investisseurs. On disait que les marchés étaient correctement valorisés, voire survalorisés sur certains secteurs. Une hausse de taux mécaniquement rend l'obligataire plus attractif et donc on peut avoir des sorties sur le marché actions. Mais ce qui s'est passé par la suite cet été, c'était un manque de visibilité de la part de la Fed et je crois que plus que c'est vraiment la chose que n'aiment pas les marchés. Les marchés détestent quelque chose, c'est l'incertitude. Et donc quand Janet Yellen n'était pas certaine de pouvoir monter ou non les taux, là on a vu des dégagements sur le marché action. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les marchés sont contents, soulignent le fait que ça y est, la politique va changer et que la Fed a en main toutes les cartes pour pouvoir se faire. Il y a quand même le synonyme, c'est que théoriquement, la croissance américaine est là, le chômage est faible et donc nous sommes ancrés dans un cycle positif.
Alors il y a souvent une traduction une fois qu'on a parlé de cette hausse de taux qui arrive et on peut le lire ici ou là. Donc forcément le dollar va monter. Est-ce que c'est le scénario que vous préconisez derrière cette hausse de taux?
Pas particulièrement et pour de nombreuses raisons, notamment quand on regarde les dernières hausses de taux de ces 20 dernières années, si on remonte jusque même en 1994, à cette époque-là, la Fed avait commencé un cycle de hausse de taux et le dollar n'a fait que se déprécier dans les 6 et 12 mois qui ont suivi. Dans les autres cycles de hausse de taux potentiels, on a vu le dollar consolider un certain nombre de semaines avant de reprendre le dessus. Et ce matin, nous avons vu le dollar américain consolider de nouveau parce que, encore une fois, on ne nous a pas parlé de cycle et de hausse de taux à répétition, mais bien d'une hausse de taux unique. Et en parallèle de cela, fait très intéressant, on nous parle aussi des possibilités qu'aurait la Fed en cas d'aggravation de la situation. Et on nous parle alors de taux négatifs, puisque je crois que après le QE 1, 2 et 3, on évite de trop rapidement mettre le QE 4 sur la table, même si, il faut le garder à l'esprit, en 2016, ça pourrait être une option, au même titre que des hausses de taux supplémentaires.
Voilà, donc c'est pas forcément aussi simple, hausse de taux, hausse de
Pas du tout.
dollars.
Bah, c'est quelque chose que les marchés ont anticipé. On dit souvent, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est ce qui s'était passé en 1994. À très court terme, c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les marchés sont dans l'anticipation.
Du côté de l'Europe, de la Banque Centrale Européenne, là, on sent aussi venir d'autres choses, c'est-à-dire sans doute un élargissement du quantitative easing. C'est un facteur de soutien des marchés actions.
Bien évidemment, oui. En Europe, nous avons eu des chiffres solides, quand même, des chiffres trimestriels remarquables, alors qu'aux États-Unis, on était quand même dans le rouge par rapport à l'année dernière. Donc, on a les résultats qui sont en soutien, on a la politique monétaire de la Banque centrale qui est en soutien, on a un euro faible qui est en soutien pour certaines entreprises, et puis on a le pétrole qui reste faible également. Donc, on a comme ça une conjonction de facteurs qui soutiennent le marché européen. On a aussi, je pense, des flux de capitaux hein, qui sont sortis soit d'un marché chinois où des opérateurs se faisaient un peu peur à cause de la volatilité, soit de marchés américains considérés comme un petit peu surévalués. Et l'Europe, pour l'instant, a l'air d'avoir l'attrait pour beaucoup de géants.
Ce qui s'est passé sur le plan de la France, par exemple, ces attentats terroristes, on a vu des menaces en Allemagne. Est-ce que ça a pu créer des inquiétudes et faire que des flux, par exemple, ne soient pas investis en Europe, ou est-ce qu'on n'a rien vu de particulier?
Ce qu'on a pu constater, c'est que les marchés très froidement, lorsque l'on a ouvert à moins 2 lundi, ont payé les yeux fermés. C'est-à-dire que déjà, d'une part, j'ai l'impression qu'il y avait un consensus sur le fait qu'on n'allait pas jouer contre l'Europe, ni jouer contre la France, que ce soit sur le marché obligataire ou le marché actions. Si on regarde historiquement ce qui s'est passé lors d'attentats, on sait que ça a un impact relativement faible sur la croissance et sur les bénéfices des entreprises. On est dans une tendance haussière sur ces marchés. On sait que potentiellement nous allons avoir un peu plus de quantitative easing européen lancé au mois de décembre, ou du moins ce sera une piste pour le début de l'année 2016. Donc j'ai vraiment l'impression que dès le début de la semaine, c'était un petit peu les soldes sur les indices à moins 2%, et preuve en est, nous avons pris pas loin de 5-6% en ligne droite depuis ces fameux supports.
Alors, d'autres environnements et d'autres marchés, les marchés émergents, si on a ce scénario de la Fed qui commence à relever ses taux, il y avait même des pays émergents qui disaient allez-y parce que
Oui, comme ça, ce sera fait.
ce sera fait. Est-ce qu'aujourd'hui ça redonne une autre, peut-être des opportunités d'investissement sur ces marchés émergents où il y a encore des risques qui font qu'on va être on va être en retrait par rapport à ces marchés?
Il ne faut pas se précipiter trop rapidement, je pense, sur les marchés émergents. Déjà, d'une part, parce que dans certains pays émergents, ce ne sont pas des problèmes économiques, mais politiques. Je pense notamment à la Turquie, je pense également au Brésil, où là, les gouvernements sont un petit peu empêtrés dans des crises autres qu'économiques. Et donc, se porter de nouveau trop rapidement sur ces marchés pourrait être dangereux. On a d'autres pays émergents qui sont très dépendants du cours des matières premières. Or, on a constaté que le pétrole, même si au début de l'année 2015, tout le monde nous disait qu'il allait retourner rapidement à 80 ou 100 $, eh bien, il continue d'être baissier et sous pression, avec notamment la forte offre de la part des pays du Golfe et puis des États-Unis, ne l'oublions pas. L'or également reste baissier. Donc, voilà, ce n'est pas encore des éléments qui jouent, qui plaident pour un point bas sur les pays émergents.
Merci Nicolas Chéron.
Merci.